Merci d'écouter France Inter, il est pile 13h. Le journal Yves Decamp, bonjour Yves.
Bonjour. Un incendie fait deux morts à Courchevel dans un bâtiment hébergeant des saisonniers. Deux personnes qui n'ont pas encore été identifiées. Quatre autres résidents ont été gravement blessés. Une soixantaine de personnes mises à l'abri dans une salle communale. Le projet de taxe sur les GAFA, Bruno Le Maire annonce qu'il présentera son texte en Conseil des ministres fin février sans attendre l'accord européen. Un nouvel impôt sur les géants du numérique qui sera rétroactif au 1er janvier et devrait rapporter 500 millions d'euros. Dans ce journal également, les deux ans de Donald Trump à la Maison-Blanche, un style de gouvernement controversé qui perturbe sa propre administration. Un an après les Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud, les retours sur investissement pas évidents du tout, c'est le droit de suite de ce dimanche 13h. Et puis Roger Federer a la peine pour son dernier Open d'Australie, malmené en ce moment même par le jeune grec Tsitsipas. Nous rejoindrons tout à l'heure Fabrice Abgral.
Saint-Air.
Deux morts, quatre blessés graves à Courchevel dans l'incendie d'un bâtiment hébergeant des saisonniers. Le feu s'est déclaré vers 4h30 la nuit dernière au troisième et dernier étage du bâtiment. Nathalie Grinspan en Savoie.
On ne connaît pas encore les causes de cet incendie qui a dévasté deux étages de ce petit immeuble sur trois niveaux en plein centre de Courchevel 1850. Les pompiers sont toujours sur place dans le bâtiment qui crache encore de la fumée. Ils étaient plus d'une quarantaine de saisonniers hébergés dans les chambres de cet ancien hôtel des années 70, un bâtiment privé appartenant à un professionnel du tourisme de la station qui exploite hôtels et restaurants. Était-il aux normes pour recevoir des locataires? C'est l'enquête qui le dira. Un permis de construire avait été déposé en décembre dernier pour un projet de rénovation. Aujourd'hui, la station de Courchevel, qui compte 5000 saisonniers, est en deuil. Il reste à identifier les deux victimes retrouvées dans les décombres. Quatre blessés dont les jours ne sont pas en danger ont été évacués sur les hôpitaux de la région et la quarantaine de saisonniers relogés sur la station. À Courchevel, Nathalie Grinspan, France Bleu, Pays de Savoie.
Un témoin a assisté au début de cet incendie, Adrien, 25 ans, il habite juste en face. Et quand il a vu les flammes, il est descendu pour porter secours aux victimes.
J'étais en train de dormir et j'ai entendu des « à l'aide, à l'aide, à l'aide ». Et du coup, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai ouvert les volets pour regarder ce qui se passait. Et j'ai vu des gens au balcon juste en face de chez moi avec des flammes, la fumée qui sortait de partout. Du coup, je me suis habillé et puis je suis sorti essayer de voir ce que je pouvais faire, quoi. Et du coup, on s'est retrouvés quelques-uns en bas des balcons à récupérer des gens qui ont sauté, qui jetaient les sacs, qui sont tombés par maladresse et par peur des balcons et essayer d'amortir les chutes en bas des deux ou trois étages desquels ils tombaient, quoi.
Un Français tué, deux autres blessés dans une avalanche en Suisse. C'est ce qu'annonce ce matin la police du canton de Vaud. Les trois personnes qui faisaient partie d'un groupe de randonneurs ont été ensevelies. Le risque d'avalanche reste très élevé ce dimanche, y compris du côté français, en Haute-Savoie.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
84 000 manifestants dans toute la France hier au 10e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Chiffre définitif du ministère, légèrement supérieur donc à ceux de samedi précédent. Ce qui a changé, c'est l'épicentre du mouvement, désormais situé à Toulouse, avec plus de 10 000 manifestants hier, plus qu'à Paris, un record depuis le début de la crise et toujours des fins de manifestations houleuses. 60 personnes interpellées à Toulouse, dont 46 placées en garde à vue. Pour la préfecture de Haute-Garonne, il y avait au moins 500 casseurs dont les exactions se sont poursuivies tard dans la soirée, ce qui pour le gouvernement explique les scènes de violence qui continuent à tourner en boucle sur les chaînes d'info ou les réseaux sociaux, y compris d'ailleurs du côté des forces de l'ordre qui doivent répondre de façon proportionnée aux attaques, comme l'a de nouveau rappelé ce matin le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux sur CNews.
L'exemplarité, elle est dans les deux sens. On ne peut pas demander à des manifestants d'être exemplaires si on ne l'est pas soi-même. Et donc je le dis, il y a aujourd'hui 81 signalements qui ont été faits, qui ont donné lieu à une enquête de l'inspection générale de la police nationale. Tant mieux. Pour ceux qui seraient détenteurs de vidéos ou de témoignages, vous allez sur le site police-national.fr, il y a une rubrique pour signaler les violences, on y est très ouvert. Ce que dit le défenseur des droits Jacques Toubon. Et il a raison. Il dit, il y a au fond les opérations de maintien de l'ordre, et les opérations de rétablissement de l'ordre. Et c'est ça la grande difficulté. Quand vous avez une foule qui, face à vous, attaque, est en position offensive, avec des jets de boules de pétanque, de cocktails Molotov, des barres à mine, des clés à molette. Il faut pouvoir opposer à cela une riposte proportionnée, mais qui permette de mettre hors d'état de nuire les plus violents. Et c'est vrai que dans ces moments-là, les Gilets jaunes qui se retrouvent non pas par envie de vouloir en découdre avec les forces de l'ordre, mais pris dans un mouvement de foule, c'est ceux-là qui sont souvent exposés.
Benjamin Griveaux qui reconnaît par ailleurs des dysfonctionnements à l'Élysée dans l'affaire Benalla, à charge pour l'autorité judiciaire de dire les responsabilités des uns et des autres, ajoute le porte-parole du gouvernement. Un accord est à portée de main sur la taxation des GAFA. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire se dit optimiste et le répète au JDD. Quelques pays d'Europe hésitent encore, mais un accord devrait pouvoir intervenir d'ici la fin mars, qui permettra de taxer les géants numériques de façon rétroactive à compter du 1er janvier. En tout état de cause, et même sans accord européen, un projet spécifique sera présenté en Conseil des ministres fin février. La France appliquera une taxe nationale qui devrait rapporter dans les 500 millions d'euros, Philippe Lefebvre.
Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme Bruno Le Maire. Alors le système français devrait être relativement simple. Seront taxées les entreprises dont le chiffre d'affaires au niveau mondial est supérieur à 750 millions d'euros et dont le chiffre d'affaires en France est supérieur à 25 millions d'euros. Et cette taxe sera variable et pourrait aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires et tiendra compte aussi des reventes de données, en clair des fichiers clients et des revenus publicitaires. Alors vous l'avez compris, le système vise les géants du numérique comme Google, Facebook, Apple ou Amazon qui a réalisé l'année dernière, accrochez-vous bien, un chiffre d'affaires de 178 milliards de dollars, mais on devrait pouvoir ajouter à cette liste Airbnb, Uber ou encore Netflix, le géant de la télévision qui a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars et au niveau français de 36 millions d'euros. Alors, le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres fin février et dans la foulée soumis au vote du Parlement. En attendant, vous l'avez dit, que les choses évoluent au niveau européen. Et là, ce sera plus difficile parce qu'on sait que l'Irlande, le Danemark et la Suède ont clairement dit non à une taxe GAFA de 3% en Europe. Et l'Allemagne hésite car elle redoute des mesures de rétorsion américaines, notamment dans le secteur de l'automobile.
Pour tout savoir de cette taxe GAFA, dossier à consulter sur franceinter.fr. À l'étranger, aux États-Unis, Happy Birthday, Mr. President. 2 ans aujourd'hui que Donald Trump est entré à la Maison Blanche et le personnage reste toujours aussi inclassable, imprévisible, en rupture évidente avec tous ceux qui l'ont précédé dans son style de gouvernance ou sa com. Ces 2 années de présidence auront aussi été marquées par de nombreuses défections ou départs tout autour de lui. Derniers en date au ministère de la Défense, Grégory Phillips à Washington.
Dana White a été pendant 2 ans l'une des conseillères les plus proches et la porte-parole du secrétaire à la Défense Jim Mattis. Quand ce dernier a claqué la porte du Pentagone après l'annonce par Trump du retrait des troupes américaines de Syrie, White n'a pas hésité longtemps et elle a démissionné le 31 décembre dernier. Quand on l'interroge sur le chaos qui parfois semble régner à la Maison-Blanche et dans l'entourage du président, elle décrit une administration qui souvent a du mal à suivre les décisions de Trump eu égard à ses fonctions récentes. Elle le dit évidemment avec prudence et en pesant chaque mot.
Ce n'est pas vraiment chaotique, mais c'est différent. Il a un style de gouvernance différent. Il prend des décisions très rapidement. C'est lui qui décide, par exemple, sur la politique étrangère. Et ensuite, c'est aux différentes administrations d'appliquer ses décisions. Pour nous qui travaillons avec lui, il a fallu s'adapter à ça. Je pense que sur l'économie, il fait un travail formidable. En revanche, en ce qui concerne le respect de nos partenaires et de nos alliés, je crois qu'il peut s'améliorer.
Donald Trump, qui aime à répéter qu'il sait s'entourer des meilleurs, a usé en 2 ans 2 chefs de cabinet, 3 conseillers à la sécurité nationale et 5 directeurs de la communication. Jamais une administration n'avait connu autant de départs volontaires ou non, le signe sans aucun doute qu'il est difficile de travailler avec le 45e président des États-Unis. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
C'était il y a 1 an l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud, des Jeux dont tout le monde a salué la parfaite organisation et le succès public, d'autant qu'ils ont été l'occasion d'initier une spectaculaire détente avec le voisin du Nord. Mais 1 an plus tard, c'est la déception. Les amateurs de sports d'hiver, coréens ou étrangers, ne se sont pas précipités vers les sites olympiques où de nombreuses installations sous-employées coûtent cher à entretenir. C'est le droit de suite de ce journal. Frédéric Ojardias à Séoul.
Une piste de descente à l'abandon, une immense patinoire de vitesse désaffectée, une patinoire de hockey inutile. Un an après les Jeux, la Corée du Sud ne sait que faire de ces coûteuses installations olympiques. Le comité d'organisation assure que les JO, qui ont coûté plus de 10 milliards d'euros, ont été bénéficiaires. Mais les villes hôtes sont lourdement endettées et la province la plus pauvre de Corée doit payer 16 millions d'euros d'ici 2022 pour la simple maintenance d'installations à l'utilité douteuse. Catherine Germier-Hamel est la directrice de Millennium Destination, entreprise basée à Séoul, qui participe à des projets touristiques à Pyeongchang.
Si bénéfice il y a eu, il ne profite pas justement ni aux communautés locales, enfin ni aux autorités locales. Qui est le perdant dans cette affaire? C'est la ville et la province qui ont accueilli les Jeux Olympiques. Le problème, c'est qu'effectivement, on dit oui, voilà, on promet même aux populations locales, vous allez voir, le tourisme, il va y avoir du tourisme. Je pense que c'est quand même une erreur. C'est limite une arnaque. Il n'y a pas eu de retombée extraordinaire ou significative, en tout cas, au niveau du tourisme de ski pour les Coréens.
Un conflit a aussi éclaté au sujet de la forêt millénaire du mont Kaliwang, en partie détruite, pour construire une piste qui n'a servi que 3 semaines. Les autorités sont revenues sur leur promesse de la replanter après la compétition. Le bilan est cependant beaucoup plus positif dans le domaine diplomatique. Les Jeux ont permis aux deux Corées de reprendre un dialogue qui continue encore aujourd'hui. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Invité de ce droit de suite, Armand de Randinger, consultant international spécialiste de l'olympisme, dont le dernier ouvrage s'intitule « Le Paris Olympique de 2024, chance ou malédiction », livre paru aux éditions Vigo. Bonjour.
Bonjour.
Alors plutôt l'impression d'une malédiction, si l'on en croit l'histoire des Jeux Olympiques, il y a toujours ce problème de rentabilité des infrastructures.
Absolument, c'est un problème récurrent. C'est pas uniquement le problème de la rentabilité des infrastructures, c'est le respect de la promesse que l'on fait lorsqu'on veut organiser les Jeux Olympiques. Il y a une sorte de mensonge qu'on se ment sur, je dirais véritablement, quelle est la finalité de l'opération des Jeux Olympiques. On considère toujours qu'il y a les Jeux Olympiques, c'est une manifestation qui coûte un certain prix, et on considère qu'elle peut être éventuellement équilibrée, pour ne pas dire bénéficiaire, en ce qui concerne l'organisation de l'événement. Or, à part les Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984, aucun Jeux Olympiques n'ont été bénéficiaires.
Alors pourquoi dites-vous que c'est une chance d'organiser les JO?
C'est une chance parce que pour moi, dans la mesure où les Jeux Olympiques, on considère que c'est un catalyseur, c'est un booster qui permet d'accélérer un certain nombre d'investissements qui seraient nécessaires pour le pays, que ce soit en infrastructure sportive, que ce soit en organisation, que ce soit en gestion, que ce soit en manière d'image, proprement parler du pays, mais encore faut-il le considérer comme un investissement. Or, on ne le considère pas comme un investissement parce qu'on n'ose pas dire à la population que cet investissement est onéreux, est important, et nécessite de bien le calibrer et de fixer un choix politique, de dire on fait cet investissement plutôt qu'un autre. C'est-à-dire qu'on fait dans les Jeux Olympiques et non pas dans la santé et dans l'éducation. Mais si on cache cela à la population, ça ne le fera jamais, ça ne marchera jamais. C'est pour ça qu'à chaque fois que l'on s'engage à faire les Jeux Olympiques, on fait la promesse suivante. Les Jeux seront équilibrés, il y aura un effet JO derrière important. Je parie, car tout est typique, on dit que le budget sera de l'ordre de 6,8 milliards, il sera maîtrisé, pourquoi pas, enfin on verra l'arrivée, mais on prévoit près de 11 milliards de retombées, mais si on veut des retombées économiques importantes, il faut investir dès maintenant dans l'effet JO. Or, on n'a pas
un euro. C'est quoi investir dans l'effet JO?
L'effet JO, c'est de dire, voilà, on dit à la population, on va revoir complètement le système d'éducation sportive. On va revoir complètement, on va accélérer le processus d'accès aux infrastructures pour les handicapés. On va mettre en place un certain nombre d'infrastructures qui vont permettre d'être gérées par la suite pour développer le sport. Or, ça ne relève pas directement des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est un événement qui coûte une certaine somme, mais cela relève de ce qu'on appelle l'impact des Jeux Olympiques. Mais on doit donc investir dans cet impact dès maintenant, hors budget des Jeux eux-mêmes. Et si on ne fait pas cet investissement dès maintenant, on n'aura aucun effet JO. Et c'est pourquoi on n'a aucun effet JO. C'est le cas de ce qui se passe aujourd'hui pour la Corée, comme ce sera le cas pour les Jeux de Tokyo, oui, comme ça a été le cas pour tous les Jeux par le passé.
Vous parlez de 24 défis à relever pour Paris, hein, des défis sportifs évidemment, financiers, sociaux. Est-ce qu'on est dans la bonne voie alors?
Écoutez, aujourd'hui, on peut considérer qu'effectivement, le comité d'organisation des Jeux et je ne sais pas s'il est sur la bonne voie, mais a bien défini ce qui est de sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de livrer pour 6,8 milliards, dont non pas 95% est financé par le privé, mais 50% est financé par le privé, le reste est par le contribuable, c'est-à-dire par l'État, la région et la ville. Donc il doit maîtriser ce budget. Mais ça, on le verra dans 2 ans, pas avant. Là, aujourd'hui, il y a encore des grandes discussions de savoir si, effectivement, on arrête la capacité de maîtriser ce budget. Mais par contre, en ce qui concerne les PJO, qui est l'élément le plus important pour la population, quelle qu'elle soit, ben aujourd'hui, on est à la ligne zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas investi 1 euro, parce que de toute façon, on n'a pas 1 euro pour investir dans les PJO.
Voilà, en rappelant que le problème en Corée du Sud, c'est l'afflux de touristes qui n'a pas eu lieu. Mais à Paris, l'afflux de touristes, il existe déjà, donc de toute façon, il n'y aura pas cet effet-là.
Oui, non, le seul effet pour Paris qui est vraiment intéressant, c'est d'accélérer le processus pour moi, c'est de repenser complètement le modèle de gestion du sport en France, qui n'est pas du tout adapté, de revoir complètement l'éducation sportive à l'école, ça c'est un élément très 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 important, et troisièmement, c'est ce qui est la promesse qui a été faite, c'est la mobilité dans une ville contrainte comme l'est Paris. C'est-à-dire que si, comme il faut investir le plus possible, ben les Jeux nécessitent cet investissement. Et puis un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Jeux Olympiques de Paris dépendent quand même aussi des conséquences de ce qu'on va faire pour le Grand Paris. C'est-à-dire la connexion qui peut exister entre l'aéroport de Roissy et le centre de Paris. Ben là, il ne faut pas que l'on dérape. Ça pose un problème si on dérape.
Merci Armand de Randinger, consultant international. Je rappelle votre dernier ouvrage, Le Paris Olympique de 2024, Chance ou Malédiction, c'est paru aux éditions Vigo. Merci beaucoup. Ils envahissent nos boîtes aux lettres et vont le plus souvent directement à la poubelle. Les catalogues de pubs et autres prospectus sont quasiment toujours aussi nombreux, malgré l'impact écologique qu'ils représentent et malgré le numérique qui les rend un peu désuets. L'enseigne Monoprix a promis qu'elle allait cesser la distribution hors de ses magasins. C'est un premier geste, mais il en faudra beaucoup d'autres si l'on en juge aux chiffres de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Adrien Toffolet.
Ces dernières années, il y a légèrement moins de ces catalogues et prospectus, mais dans le même temps, le volume de papier utilisé pour les fabriquer a augmenté de 3 à 4% tous les ans selon les dernières données de l'ADEME. Difficile d'y voir un progrès, la pratique a encore de beaux jours devant elle, comme l'explique Alain Tripier, consultant spécialiste du marché du papier.
Vous avez un article en promotion dans un prospectus, vous savez très bien, mesurer au jour le jour les volumes des ventes. C'est le moyen de communication le plus efficace que les grandes surfaces ont trouvé. Le deuxième point, c'est que si on s'éloigne un petit peu de Paris, qui est un cas tout à fait à part, finalement, le consommateur apprécie pour deux raisons. C'est utile. Beaucoup de gens cherchent à acheter des produits au moindre coût. Et puis, il y a un plaisir, entre guillemets, de feuilleter et d'aller chercher de l'information.
Bref, inimaginable de les voir disparaître dans le marché très concurrentiel des grandes surfaces. Monoprix qui s'investit, c'est seulement 2400 tonnes de papier en moins tous les ans sur les 900 000 tonnes distribuées en France et qui finissent en partie recyclées mais en majorité brûlées ou enfouies. Seul un dispositif a montré une certaine efficacité pour lutter contre les autocollants Stop Pub à coller sur les boîtes. 25 à 30% des foyers en sont équipés selon l'ADEME.
Et pour une efficacité qui n'est pas garantie à 100%. En sport, en Ligue 1 de football, le naufrage qui se poursuit pour Monaco, battu à domicile par Strasbourg 5-1. La faute à l'arbitrage vidéo qui ne fonctionnait pas selon l'entraîneur Thierry Henry. En tennis, les doigts dans le nez pour Rafael Nadal, qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie sans perdre un set, ce que n'aura pas réussi Roger Federer face au jeune grec Stefanos Tsitsipas, 15e mondial. Le champion suisse vainqueur ici l'année dernière est sorti par la petite porte de son dernier Open d'Australie, Fabrice Abgral.
Ah, de son dernier Open d'Australie, on n'en sait rien, vous vous avancez un petit peu.
Ah, c'est ce pas que vous sûr nous aviez
encore.
Dit, hein.
C'est pas sûr encore. C'est pas sûr. Donc, Roger Federer, oui, en effet, battu, hein. C'est la surprise de la journée. L'exploit a été signé par Stefanos Tsitsipas, âgé seulement de 20 ans. Il est né à Athènes, ce grec, Stefanos Tsitsipas, classé 15e mondial. Il s'est imposé en 4-7, 6-7, 7-6, 7-5, 7-6, 3h45 d'un match extrêmement intense, remporté donc contre toute attente par Stefanos Tsitsipas, l'un des joueurs symboles de la nouvelle génération. C'est vrai que c'était un duel de génération, et bien c'est le plus jeune de 17 ans qui s'est imposé, puisque vous le savez, Roger Federer a 37 ans très précisément, Tsitsipas en a 20. Eh bien, aujourd'hui, ça s'est vu sur le terrain. Il était beaucoup plus frais, beaucoup plus fougueux que Roger Federer, qui a raté énormément d'occasions puisqu'il n'a concrétisé aucune des 12 balles de break qu'il s'était procuré, dont 4 balles de 7 dans la deuxième manche. Roger Federer a été battu par plus fort que lui aujourd'hui. Tsitsipas, retenez ce nom, Stefanos Tsitsipas, c'est un joueur dont on entendra encore parler. Et donc, pendant longtemps, croyez-moi.
Et donc, Federer va prendre sa revanche l'année prochaine, c'est ça?
C'est pas sûr, on ne sait pas encore ce qu'a l'intention de faire Roger Federer, il le dira au milieu ou à la fin de la saison.
Merci Fabrice Abgral, un dernier mot, c'est du biathlon avec Sadvin Rangen, l'éternelle victoire du Norvégien Jonas Bø dans la Mass Start. Martin Fourcade est quatrième.